Daniel Epelli, donc bonjour.
Bonjour.
Donc vous faisiez partie, vous, de la première expédition qui a découvert la salle de Laverna. Bon, avant de nous rappeler un petit peu le contexte et comment ça s'était passé, en deux mots, vous pouvez vous présenter, vous venez d'où ?
Je suis de Lyon, et nous étions tous de Lyon. Le groupe, nous appelait les scouts lyonnais de Lyon, voilà. C'était des éclaireurs de France, en fait, de Lyon.
En 1953, vous aviez quel âge ?
Ben, j'avais 24 ans.
Et déjà, vous vous passionniez pour la spéléologie ?
Oui, bien sûr. Depuis 3-4 ans, au moins, on était devenu quand même... pour l'époque, on était assez pointu. On était peut-être... Castoret disait qu'on était les meilleurs du monde. Mais enfin, peut-être qu'il avait peut-être un petit peu, je ne sais pas.
Et donc, avant de venir ici, vous faisiez de la spéléo ?
Ben là, on faisait tout autour de Lyon parce qu'on n'avait pas des moyens extraordinaires. On faisait beaucoup de choses en vélo. Il y avait des grottes autour. On partait en vélo. On faisait de la spéléo le week-end et on remontait sur le vélo. On rentrait. On n'avait pas de moyens de transport autre que le vélo. Alors donc, c'était limité au point de vue distance, mais on avait des réseaux difficiles à faire.
Et comment vous avez entendu parler de la Pierre Saint-Martin ?
Voilà, alors on avait entendu parler de la Pierre Saint-Martin parce qu'ils en avaient parlé dans les journaux. C'était un groupe c'était des gens de tous de Paris qui avaient beaucoup de relations humaines, disons, de relations journalistiques ou autres. Qui faisaient beaucoup de battages avec leurs trous. Et nous, on a entendu parler de ce truc. Ils sont venus faire une conférence à Lyon. Et c'est là qu'on a fait connaissance de Taziev, qui était les volcans. Vous avez dû entendre parler de son nom. Et puis Haroun Taziev. Et puis on avait rencontré aussi Norbert Castoret, qui était à ce moment-là une éminence de la spéléo. Ouais. Alors ils ont fait une conférence à Lyon, on les a vus. On a discuté avec eux et on a sympathisé. Ils nous ont dit, vous viendrez si vous voulez à la Pierre Saint-Martin. Mais ce n'était pas eux les responsables. Mais on a pris ça pour une invitation ferme et on est venu. On est venu donc en 52, hein, Jackie, c'est ça. En 52, on est venu à la Pierre Saint-Martin pour la première fois. Et on était plus ou moins reçus parce qu'ils nous ont dit, bon, même si vous voulez, mettez votre tente et puis débrouillez-vous pour manger et tout ça. Et ils n'avaient pas du tout l'intention de nous faire descendre dans leur groupe. Et c'est là que l'accident de Loubin s'est arrivé. Il y a eu l'accident. Le groupe marchait avec un treuil. Le treuil a lâché. Et bon, et Loubin s'est tombé. Et eux, ils n'étaient pas capables. Ils ne pouvaient pas descendre dans le gouffre parce qu'ils ne savaient pas descendre aux échelles. Alors on est descendu on s'est tous installés le long du gouffre. Pour remonter le corps de Loubin, ce qui était à ce moment-là était prévu de le remonter sur une civière. Quand on était tous en place, ils nous ont dit « Loubin, c'est mort ». Alors, on a dit « Bon, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, on a dit « Donnez-nous 5 minutes pour réfléchir, on va discuter entre nous ». Alors, on a dit « Bon, finalement, ça sera plus simple pour... » C'est dommage, on était désolés, bien sûr. On a dit, au lieu de le mettre sur une civière où c'était très dangereux pour nous parce que ça faisait déclencher des chutes de pierres et autres, on a dit, mettez-le dans un sac de montagne, un gros sac, et puis on le montera beaucoup plus facilement, il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, le groupe de la Pierre Saint-Martin nous a dit, bon, écoutez, nous, on est émus, on est fatigués, on va se coucher. Alors, ils nous ont laissés dans le trou, carrément, comme ça, et hop. Il fallut qu'on remonte par nos propres moyens. Et c'est des gardes Moléon, ça vous pouvez le dire, parce que vous êtes de Moléon. C'est des gardes Moléon qui nous ont tirés, là. Parce qu'on avait une corde d'assurance pour remonter. Notre chef de groupe, Louis Ballandreau, était au moins 240. Moi, j'étais à moins 200. Puis on en avait posté un peu tout au long pour faire passer le corps. Alors, ils nous ont carrément hissés, on peut dire que d'habitude on s'assurait par sécurité, mais eux, ils étaient toute une bande, et on était quand même crevés, on est resté 20 heures dans ce trou à attendre. Mmh. Ils nous ont vraiment sortis du trou, là, et puis à la suite de cet accident et de cette intervention, le groupe de la Pierre Saint-Martin nous a réellement invités.
Vous avez fait vos preuves ?
On avait fait nos preuves et puis ils avaient vu qu'ils avaient besoin quand même de gens qui avaient un peu des capacités réelles pour les gouffres. Quoi. Mmh. Alors donc ils nous ont réinvités et l'année d'après, On est parti à 5 en équipe de, pour découvrir la grotte. Donc avec il y avait Georges Lépineux qui était un ancien qui était s'occupait beaucoup de Paul-Émile Victor au pôle Nord avec les expositions polaires dans Terra Deli. Puis nous quatre, il y avait Jimmy Théodore aussi, un Belge, et puis trois de notre groupe, Michel Le Trône, Georges Balandreau et moi. Alors on a organisé notre affaire. On est parti à trois en pointe avec Jimmy Théodore, Georges Lépineux et moi, et puis Michel Le Trône et Joe Balandreau suivaient derrière en faisant la topographie, parce que la spéléo, c'est ça. Si vous rentrez dans un trou puis vous dites que vous avez fait quelque chose, vous pouvez raconter n'importe quoi. S'il n'y a pas de carte, c'est un peu comme en route. Hein, il faut qu'il y ait une trace réelle. Mmh. Alors ils ont fait toute la topo, qui était un travail formidable, jusqu'à la grotte. On est arrivé au fond de la grotte, et puis là, on a considéré que c'était à peu près terminé, parce qu'on pouvait pas aller plus loin, nous, parce que le ruisseau de la grotte, il y a une cascade à la fin, ça arrive dans la grotte, peut-être vous y avez été. Mmh. Ça s'est jeté dans l'eau, mais il y a une continuation en haut, mais ça, on pouvait pas le savoir, nous, parce que on n'avait que nos lampes à carbure pour éclairer. La salle, on ne se rendait même pas compte qu'on était dans une salle. On avait l'impression d'être à l'extérieur, tellement c'était grand. Alors on a essayé, je me suis fait assurer par Georges Lépineux, pour essayer de grimper un peu tout autour, voir s'il n'y avait pas une continuation quelque part. Ça, on n'a pas trouvé, on ne pouvait pas trouver. Et puis on est rentré, voilà, l'affaire était faite, si vous voulez. C'est resté pendant 2-3 ans le gouffre le plus profond du monde. Hein. Mmh. Maintenant, Et déjà, je ne sais pas s'ils n'ont pas reconstruit. C'est avec, comme ils sont remontés en amont, qu'ils ont retrouvé des... au point de vue profondeur, on doit être le deuxième ou le troisième gouffre du monde.
L'Averna est à combien de profondeur?
Entre 650 et 753, puis ça a été retopographié ailleurs, alors peut-être que ça a changé. Mais maintenant, ils descendent de la tête sauvage, il y a un puits, je crois, SC3 ou quelque chose comme ça. Ça fait une bonne descente.
Bon, on ne sait pas exactement. Nous c'était après nous, et je ne me suis pas passionné. La pierre Saint-Martin, ça a été mon champ du cygne, parce qu'après, je me suis marié, j'ai mes enfants, c'est tombé l'aspect Léo.
Quand on découvre une salle comme la Verna, on suppose qu'elle existe, on n'est pas sûr.
Comment
on sait avant d'y aller qu'il y a quelque chose.
Non, on ne sait pas, on ne sait rien. Voilà. C'est ça la Vierge, si vous voulez. On part à la découverte, un peu comme les explorateurs en bateau ou autre. On va où les autres n'ont pas été avant vous. On est les premiers. Toute la passion de la spéléo, c'est ça. C'est le Vierge, faire du terrain vierge, partir dans un réseau, vous savez pas qu'est-ce qui va vous arriver, si c'est un puits, un lac, vous savez rien. C'est l'aventure, la plus pure. Ouais.
Et puis à l'époque, avec les moyens de l'époque.
Avec les moyens de l'époque, parce que maintenant ils sont beaucoup mieux équipés que nous, ça c'est sûr.
Disons qu'ils y voient un peu mieux.
Et déjà, l'éclairage, ils nous ont montré hier, avec l'électricité, ils sont arrivés à trouver des éclairages très importants, alors que nous n'en avions pas. On avait les lampes à carbure, comme les mineurs, exactement. Ouais. Nous, on avait recopié sur les mineurs, et puis on s'éclairait avec une lampe à carbure. Mais c'était un peu... c'était juste que...
Et donc, vous arrivez à la Verna, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez découvert.
Ah bah si. On sait que c'est un gros trou. On sait qu'on est les plus profond du monde aussi, quand même, ça on le sait, parce qu'on s'est bien rendu compte, hein. Déjà d'où on était parti, où on est arrivé, ça c'était pour nous, c'était évident qu'on était les champions du monde pendant 2-3 ans, voilà, si vous voulez. D'ailleurs, on a passé une soirée hier au soir avec les gens de connaissance du monde et tout ça, et ça m'a fait très plaisir de voir que les nouvelles générations étaient quand même... Enfin, s'ils ne sont pas de nouvelle génération, ceux-là un petit peu plus âgés que ça. Mais enfin, il y a quand même une continuité dans l'esprit d'aventure en France et ailleurs qui fait plaisir à voir. Moi, je trouve que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'occupe pas que de la télé, de l'ordinateur et de regarder des matchs de foot. Voilà, c'est ça.